Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Ensuite, l'événement suivant a lieu en juillet 2024. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a confirmé que la question de la frontière entre l'Indonésie et la Malaisie à Kalimantan du Nord avait été résolue suite à la conclusion d'un accord qui pourrait bientôt être décrit dans un protocole d'accord officiel. Lors d'une réunion avec le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohammad bin Hassan à Kuala Lumpur, mercredi le 3 juillet, Retno a déclaré que le processus technique de négociation sur deux segments de la frontière terrestre, notamment sur l'île de Sebatik, avait atteint sa phase finale. De cette façon, on a pu déterminer immédiatement la ligne frontière séparant l'île de Sebatik entre la partie indonésienne de la province du Kalimantan du Nord et la Malaisie dans l'état de Sabah. Le ministre Retno a déclaré dans son communiqué de presse que la prochaine étape pour les deux parties serait de préparer un plan de terrain qui serait utilisé comme pièce jointe au protocole d'accord. Pendant ce temps, dans le segment de la frontière maritime, elle a déclaré que les négociations se poursuivaient pour la zone antartidale et les zones de brèche dans la mer de Sulawesi. Le ministre espère qu'il y aura un engagement plus fort de la part des deux parties dans les négociations sur la frontière maritime pour obtenir des résultats bons et mutuellement bénéfiques. Le 8 juillet 2024, le président Joko Widodo a annoncé l'envoi d'une aide humanitaire par le gouvernement indonésien aux victimes du glissement de terrain naturel survenu le 24 mai 2024 en Papouasie-Nouvelle-Guinée et du tremblement de terre en Afghanistan en octobre 2023. Le déblocage de l'aide par le président a eu lieu à la base de l'armée aérienne Halim Perdana Kusuma à Jakarta. Nous devons aider nos frères et sœurs frappés par une catastrophe. C'est pourquoi nous enverrons aujourd'hui une aide humanitaire à nos frères et sœurs touchés par les catastrophes en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Afghanistan. L'aide envoyée par l'Indonésie aux victimes des catastrophes naturelles en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Afghanistan a pris la forme de médicaments, de nourriture supplémentaire et même de kits d'hygiène. Le président espère que cette aide pourra alléger le fardeau des populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Afghanistan et permettrait aux populations des deux pays de se remettre sur pied après la catastrophe. Le président Joko Widodo a dirigé la cérémonie Prasetya Perwira, ou abrégée en PRASPA 2024, dans la cour du Palais Merdeka à Jakarta, le 16 juillet 2024. Le président a inauguré et prêté serment 906 jeunes candidats officiers de l'armée nationale et des forces de police. Les officiers nommés par le président étaient 417 diplômés de l'académie militaire, 129 diplômés de l'académie navale, 113 diplômés de l'académie de l'armée de l'air et 247 diplômés de l'académie de police. Le président Joko Widodo s'est rendu à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le 16 juillet 2024 pour y effectuer une visite d'État. La visite vise à renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis, notamment dans les domaines de l'économie et de l'investissement. Dans sa déclaration à la base de l'armée de l'air de Halim Perdana Kusuma à Jakarta, avant le décollage, le président a déclaré qu'au cours de la dernière décennie, les relations entre les deux pays s'étaient développées rapidement. Le président Jokowi a également déclaré que le partenariat stratégique entre l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis couvre des secteurs importants tels que l'énergie propre, marqué par la coopération dans le développement de l'énergie solaire dans le réservoir de Cirata. Passons au mois d'août 2024. Le président Joko Widodo a dirigé la commémoration du 69e jour de l'indépendance de la République d'Indonésie à la capitale de Nusantara. Ce qui est intéressant dans la commémoration de l'anniversaire de la République d'Indonésie le 17 août, c'est la mise en œuvre de la cérémonie de commémoration qui s'est déroulée de manière hybride depuis le terrain du Palais Merdeka à Jakarta. Le vice-président Ma'ruf Amin et le vice-président élu Gibran Rakabuming Raka ont assisté à cette cérémonie depuis Jakarta. La commémoration de cette année du 79e anniversaire de l'indépendance indonésienne porte sur le thème « Nouvel archipel, Indonésie avancée » qui dépeint les premiers moments des trois transitions majeures de l'Indonésie, l'accueil de la nouvelle capitale, le changement de dirigeant et l'accueil de l'Indonésie dorée 2045. Après avoir dirigé la cérémonie à la capitale de Nusantara, le président Joko Widodo a exprimé sa gratitude pour le bon déroulement de la série de cérémonies commémorant le 79e anniversaire de l'indépendance de la République d'Indonésie.
Semuanya, alhamdulillah.
Tout Dieu merci. À partir de la sainte réflexion d'hier soir, puis de ce matin et de cet après-midi, et de la descente du drapeau cet après-midi, Dieu merci, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. La météo a également été très favorable. Quand nous avons fait une pause, il a plu, donc il faisait fraîche. Il n'était pas chaud. L'atmosphère de la cérémonie est devenue très solennelle. Et en cette occasion propice, encore une fois, je vous souhaite joyeux 79e jour de l'indépendance à tous les habitants de notre pays.
Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air.
Outre la cérémonie de commémoration du jour de l'indépendance indonésienne 2024 qui s'est tenue à la capitale de Nusantara et à Jakarta, la cérémonie d'honneur et de réflexion sacrée a également au lieu à deux endroits, à savoir le cimetière des héros de Kalibata par le vice-président Ma'ruf Amin et le parc Kusuma Bangsa à la capitale de Nusantara par le président Joko Widodo. Le président Joko Widodo a reçu la plus haute distinction du gouvernement palestinien, Grand Collar Order of the State of Palestine, qui a été remise par l'envoyé spécial du président palestinien Riyad Al-Maliki au Palais Merdeka à Jakarta le 19 août 2024. Ce prix a été décerné en guise de reconnaissance du soutien constant de l'Indonésie à la lutte du peuple palestinien pour l'indépendance. Riyad Al-Maliki a souligné que ce prix était décerné en guise de respect pour les efforts du président Joko Widodo visant à renforcer les relations entre l'Indonésie et la Palestine, à soutenir la lutte du peuple palestinien pour la liberté et l'indépendance. La remise de ce prix confirme les relations diplomatiques étroites entre l'Indonésie et la Palestine, ainsi que l'engagement de l'Indonésie à soutenir les droits des Palestiniens sur la scène internationale. Au cours de la réunion, le président a également réaffirmé la position de l'Indonésie qui continuera à soutenir la lutte du peuple palestinien, ainsi que son engagement à lutter pour la reconnaissance internationale et l'adhésion à part entière de la Palestine à l'ONU. Le 30 août 2024, le président Joko Widodo a reçu la médaille Agricola de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ou abrégée en FAO. Le prix a été remis directement par le directeur général de la FAO, Dr. Kudong Yu, au Palais d'État de Jakarta. Dans son discours, le président a exprimé sa haute appréciation pour ce prix. Selon le chef de l'État, la médaille Agricola était un honneur pour lui et a été décernée à tous les Indonésiens qui ont activement contribué au renforcement du secteur agricole. Le président a également exprimé l'espoir que le FAO continuera à être en lien pour unir les efforts de tous les pays afin d'atteindre la sécurité alimentaire dans le monde. La médaille Agricola est la plus haute distinction décernée par la FAO aux personnes qui ont apporté des contributions extraordinaires au domaine de l'alimentation et de l'agriculture. La médaille Agricola a été préparée directement par le siège de la FAO à Rome, avec une photo gravée du président Jokowi et le slogan « Plus fort ensemble pour des systèmes agroalimentaires résilients et durables ». Passons au mois de septembre. Le 1er septembre, les parlements indonésiens et africains ont convenu de lutter contre l'épidémie de Mpox, une maladie de la variole du singe, en Afrique, en Indonésie et dans le monde. Cela a été transmis par le président du Conseil représentatif du peuple indonésien, ou DPRRI, Puan Maharani, lors d'une conférence de presse après la clôture du Forum parlementaire indonésien-africain à Nusa Dua, Bali. Puan Maharani a déclaré que Mpox n'est plus quelque chose de nouveau. Le gouvernement doit donc prendre des mesures concrètes. Alors, nous demandons un suivi concret de la part du gouvernement pour anticiper et atténuer. Auparavant, les pays africains, dans les sujets transmis, étaient également d'accord sur ce sujet. Et nous demandons également au gouvernement de coopérer immédiatement avec d'autres pays, pas seulement l'Afrique et l'Indonésie, mais d'autres pays qui peuvent protéger les passages existants considéré comme capable de propager le virus de manière concrète. Des choses comme ça, nous les ferons ensemble. Puan Maharani a en outre déclaré que les mesures prises par le Parlement indonésien africain contre le Mpox étaient une manifestation de l'esprit de la Conférence asiatique africaine de 1955. Cependant, dans le contexte actuel, le Parlement joue également un rôle dans diverses questions mondiales et régionales, y compris la propagation de la Mpox. Le 2 septembre, le président Joko Widodo a officiellement ouvert la session co-dirigeante du Forum de haut niveau de partenariat multipartite 2024 et du Forum Indonésie-Afrique 2024 à Bali. Dans son discours, le président Joko Widodo a souligné l'engagement de l'Indonésie à faire partie de la solution mondiale. Le président a également souligné le déclin de l'esprit du multilatéralisme et la fragmentation croissante au niveau mondial. C'est pourquoi le président Joko Widodo invite tous les dirigeants du monde à renforcer la solidarité internationale et à rechercher de nouvelles stratégies. Par conséquent, nous avons besoin de nouvelles directions et de nouvelles visions. Nous avons besoin de nouvelles stratégies. Nous avons besoin de nouvelles mesures tactiques pour parvenir à un développement plus équitable et plus inclusif pour les pays en développement. Le président Joko Widodo a également déclaré que l'Indonésie était prête à s'associer aux pays africains dans le cadre du programme de développement mondial. Le partenariat Indonésie-Afrique a enregistré un grand succès, la valeur des accords commerciaux atteignant 3,5 milliards de dollars américains, soit près de 6 fois le résultat du premier forum en 2018. À la fin de son discours, le président Joko Widodo a annoncé que l'Indonésie célébrerait l'année prochaine le jubilé de platine de la conférence ASEAN-Afrique pour commémorer le 70e anniversaire du sommet Asie-Afrique comme une manifestation concrète de l'engagement de l'Indonésie à renforcer la coopération internationale. Toujours à la même date, le président Joko Widodo a tenu une réunion bilatérale avec le président libérien Joseph Nyuma Boakai. La réunion a eu lieu en marge d'une série d'événements organisés au Forum de partenariat multipartite de haut niveau et au Forum Indonésie-Afrique à Bali. Au cours de la réunion, le président Joko Widodo a exprimé son appréciation pour la présence du président Boakai et a souligné que les relations bilatérales entre les deux pays fonctionnent bien depuis près de 60 ans. Le président Joko Widodo a présenté trois principaux secteurs de coopération qui pourraient être renforcés entre l'Indonésie et le Libéria. Premièrement, la coopération dans le secteur de l'huile de palme, qui est actuellement confrontée à divers défis allant des campagnes noires lancées dans le monde occidental aux politiques de discriminatoires des réglementations sur la déforestation de l'Union européenne. Deuxièmement, la coopération dans le secteur des infrastructures. Troisièmement, la coopération dans divers programmes adaptés aux besoins du Libéria, comme le soutien technique, les bourses d'études et la formation professionnelle. Le 23 septembre, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a participé au sommet de futur tenu au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis. La réunion vise à construire un consensus mondial pour renforcer le multilatéralisme face aux défis mondiaux actuels et futurs. Le thème évoqué lors de cette réunion était des solutions multilatérales pour un avenir meilleur. Dans son discours, la ministre des Affaires étrangères Retno a souligné l'importance de la coopération internationale pour surmonter les problèmes mondiaux tels que les rivalités géopolitiques, la reprise économique et les crises climatiques et énergétiques. Il a souligné que la paix ne peut être réalisée que si le droit international est appliqué de manière cohérente et sans double standard. Outre la paix, le ministre des Affaires étrangères Retno a également souligné le droit à un développement juste et équitable, soulignant l'importance d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.
Le 2 octobre, le président Joko Widodo a inauguré 7 postes frontaliers ou PLBN répartis dans diverses zones frontalières à travers l'Indonésie. lors de l'inauguration dans la région de Centre Nord de Timor, Nusa Tenggara Oriental, le président Joko Widodo a déclaré que les postes frontaliers représentaient le progrès de l'Indonésie.
Perbatasan adalah
le frontalière est le proche de notre pays l'Indonésie. Il représente le visage de notre pays l'Indonésie. Le visage de notre pays ici, dans les postes frontaliers que nous avons construits. Et aussi, c'est une représentation du progrès de notre pays. Une représentation du progrès de notre nation. C'est pourquoi il y a 10 ans, j'ai ordonné la construction de tous les postes frontaliers.
Kemajuan bangsa kita. Oleh sebab itu, 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara.
Le président Joko Widodo a ajouté que la construction de postes frontaliers constituait également un effort du gouvernement pour égaliser le développement jusqu'à la frontière. Selon le président, le PLBN fonctionne également comme une zone tampon pour la défense nationale. Le 20 octobre, l'Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie, ou MPRRI, a investi le président et le vice-président de la République d'Indonésie pour le mandat 2024-2029, Prabowo Subianto et Gibran Raka Buming Raka au bâtiment Nusantara, complexe parlementaire Senayan, Jakarta. L'investiture présidentielle a été dirigée par le président du MPRRI, M. Ahmad Muzani, lors de la séance plénière du MPRRI. Prabowo Subianto et Gibran Raka Buming Raka a prêté serment en tant que président et vice-président de la République d'Indonésie.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Par Allah, je jure, je remplirai les obligations du président de la République d'Indonésie aussi bien que possible et équitablement, respecter la Constitution et appliquer toutes les lois et réglementations aussi strictement que possible et servir la patrie et la nation.
Dengan seluruh-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa.
Suivant, le vice-président Gibran Raka Buming Raka a également prêté serment.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah.
Bismillahirrahmanirrahim. Par Allah, je jure, je remplirai les obligations du président de la République d'Indonésie aussi bien que possible et équitablement. Respecter la Constitution et appliquer toutes les lois et réglementations aussi strictement que possible et servir la patrie et la nation.
Serta berbakti kepada Nusa dan bangsa.
732 membres du MPRRI ont assisté au cortège de prestation de serment. La séance plénière du MPRRI a également réuni des personnalités nationales et des dirigeants de partis politiques. En outre, l'investiture du président et du vice-président a également été assistée par des représentants des pays amis, donc le premier ministre de Timor-Leste, Sanana Gusmao, le premier ministre du Cambodge, Hun Manet, le vice-président chinois, Han Zheng, l'envoyé spécial du président des Émirats Arabes Unis, Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, et le sultan du Brunei Darussalam, Hassan al-Bolkiah. À la même date, le président Prabowo Subianto a prononcé son premier discours après l'investiture. Dans son discours, le président Prabowo a souligné son engagement à donner la priorité aux intérêts du peuple avant tous les intérêts du groupe.
Saya Prabowo Subianto.
Je suis Prabowo Subianto et Gibran Raka Buming Raka ont prêté serment de défendre notre constitution, appliquer toutes les lois et réglementations applicables pour servir l'État et la nation. Nous exécuterons ce serment du mieux possible avec un plein sens des responsabilités et avec notre la force qui est dans nos actes et dans nos corps. no access home, the leadership the government de la République d'Indonésie, le leadership de l'État et la nation indonésienne sincèrement, en donnant la priorité aux intérêts de tous les peuples indonésiens. Nous donnerons la priorité aux intérêts de la nation indonésienne, aux intérêts du peuple indonésien, avant tous les intérêts au-dessous de tous les groupes et de nos intérêts personnels. Le 21 octobre, le président Prabowo Subianto, accompagné du vice-président Gibran Rakabuming Raka, a officiellement nommé 48 ministres du cabinet rouge et blanc pour la période 2024-2029 au Palais d'État Jakarta. Les 48 ministres étaient composés de 7 ministres de coordination et 41 ministres techniques. En outre, le président a également nommé 5 fonctionnaires de niveau ministériel, à savoir le procureur général, le chef et le chef adjoint du personnel présidentiel, le chef de l'Agence nationale de renseignement, le chef du bureau de communication présidentielle et le président du Conseil économique national. Le même jour, le président a investi le vice-ministre du cabinet rouge et blanc pour la période 2024-2025.
Le 6 novembre, le président Prabowo Subianto a reçu la visite du premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, au Palais Merdeka à Jakarta. Le président Prabowo, après la réunion, a déclaré que cette visite était très significative, car c'était la première visite officielle qu'il recevait. Selon le président, Singapour était le voisin le plus proche et un partenaire très important de l'Indonésie. Le président Prabowo espère que Singapour pourrait faciliter un accès plus large au marché pour l'Indonésie, y compris via l'harmonisation des réglementations et des normes. Le président Prabowo et le premier ministre Lawrence Wong ont également discuté de la coopération énergétique à faible émission de carbone, du développement de l'hydrogène vert à Sumatra et de l'utilisation des centrales solaires en Indonésie. Le 8 novembre, le président Prabowo Subianto a commencé sa première visite de travail à l'étranger dans 6 pays pour tenir des réunions bilatérales et multilatérales. Les pays visités étaient la République populaire de Chine, les États-Unis, le Pérou, le Brésil, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis. Cette visite a eu lieu du 8 au 24 novembre 2024. Le président, dans sa déclaration à la base de l'armée de l'air de l'armée nationale indonésienne, Halim Perdana Kusuma, a déclaré que la réunion s'est concentrée sur diverses questions importantes, y compris l'économie mondiale et la géopolitique. Le 9 novembre, le président Prabowo Subianto a tenu une réunion bilatérale avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux dirigeants de renforcer les relations Indonésie-Chine qui existent depuis plusieurs siècles. À cette occasion, le président Prabowo a exprimé son engagement à améliorer les relations bilatérales dans le contexte de la prospérité et de la stabilité en Asie. Le président Prabowo a estimé que les relations entre l'Indonésie et la Chine créeraient une atmosphère propice dans la région asiatique. Le 11 novembre, le président Prabowo a tenu une réunion bilatérale avec le président des États-Unis, Joe Biden, à la Maison-Blanche, Washington, D.C. La réunion faisait partie d'une série de visites de travail officielles du président Prabowo aux États-Unis. Outre la réunion avec Joe Biden, le président a également tenu une réunion avec les membres corporatifs de la société États-Unis-Indonésie, ou abrégée en USINDO, qui s'est tenue à l'hôtel Four Seasons, Washington, D.C. Dans son discours, le président a encouragé les entreprises américaines à continuer à investir et à participer à des plans de développement en Indonésie. Le président Prabowo a eu un dialogue direct avec 12 dirigeants de grandes entreprises américaines qui investissent depuis longtemps en Indonésie, tels que Freeport, Chevron, General Electric et Georgetown. Le 14 novembre, le président Prabowo Subianto a eu une réunion avec la présidente péruvienne Dina Boluarte au palais de Gobierno Lima. Après la réunion, le président Prabowo a déclaré que sa rencontre avec la présidente du Pérou avait discuté d'un certain nombre de choses, entre autres accords de partenariat économique global pour éradiquer la drogue. Le président espérait que l'accord pourrait être conclu dans les 6 prochains mois. Le processus de signature de l'accord serait mené à bien lors de la visite de la présidente Dina Boluarte et de sa délégation en Indonésie. Le président Prabowo a également apprécié le Pérou pour avoir accueilli le sommet de l'APEC. Au même jour, le président Prabowo a prononcé le discours d'ouverture du sommet de l'APEC au Grand Théâtre National du Pérou. Dans son discours, le président Prabowo a souligné le rôle important du secteur des affaires et des entrepreneurs dans la croissance économique et la réalisation de la paix et de la prospérité mondiale. Avant de rencontrer la présidente péruvienne Dina Boluarte, le président Prabowo a reçu une visite de courtoisie du premier ministre australien Anthony Albanese à Lima. Cette visite était l'occasion pour les deux dirigeants de renforcer les relations diplomatiques tout en renforçant la coopération dans divers domaines stratégiques entre l'Indonésie et l'Australie. Le 15 novembre, le président Prabowo Subianto a tenu une réunion bilatéral avec le président de la République socialiste du Vietnam, Luong Chuong, à Lima, Pérou. La réunion a eu lieu en marge du sommet de l'APEC 2024 et était axée sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays. Le président a déclaré que la deuxième coopération économique était un très bon pays. Le président souhaitait renforcer cette coopération à l'avenir. Au même jour et au même endroit, le président Prabowo a tenu une réunion bilatérale avec le premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon. Au cours de la réunion, le président Prabowo a souligné son engagement à renforcer les relations stratégiques entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande qui sont jusqu'à présent bien établies. Le président Prabowo a également exprimé la volonté de l'Indonésie de renforcer les relations commerciales bilatérales, d'ouvrir les marchés et de soutenir la participation de l'Indonésie au Forum des pays du Pacifique. Le 17 novembre, le président Prabowo Subianto a tenu une réunion bilatérale avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à Rio de Janeiro, Brésil. La réunion a eu lieu en marge de la visite du président Prabowo pour assister au sommet du G20 au Brésil. Au cours de la réunion, le président a exprimé son appréciation pour le dévouement de Guterres à soutenir la paix et la justice internationale. Le président Prabowo a également souligné l'engagement de l'Indonésie à soutenir les efforts de l'ONU, y compris sur des questions telles que la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, les violations des droits de l'homme, humanité, ainsi que la crise en Palestine. Il a déclaré que l'Indonésie était prête à contribuer, y compris en envoyant des troupes de maintien de la paix si nécessaire. Le même jour, le président Prabowo a participé au Forum des affaires Indonésie-Brésil qui s'est tenu au palais de Copacabana, Rio de Janeiro. Le forum a réuni des acteurs économiques de l'Indonésie et du Brésil pour discuter des opportunités de coopération économique stratégique, y compris dans le secteur de l'énergie, secteur industriel et maritime. Le 18 novembre, le président Prabowo Subianto a tenu une réunion bilatérale avec le premier ministre indien Narendra Modi en marge du sommet du G20 à Rio de Janeiro, Brésil. Cette réunion a discuté de diverses opportunités de coopération stratégique dans les domaines de la santé, de l'éducation et du commerce, ainsi que le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Le 19 novembre, le président Prabowo Subianto a participé à la troisième session du sommet du G20 Brésil au Musée d'art moderne Rio de Janeiro. Lors de la séance sur le thème « Développement durable et transition énergétique », le président a souligné l'importance de la collaboration mondiale pour surmonter les défis de la pauvreté, de la famine et du changement climatique, ainsi que les objectifs de développement durable et la transition énergétique verte. Toujours le même jour, le président Prabowo a tenu une réunion bilatérale avec le président français Emmanuel Macron en marge du sommet du G20 au Brésil. Cette rencontre est devenue un moment important pour renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et la France dans divers secteurs. Lors de la réunion, les deux chefs de pays ont discuté de diverses questions stratégiques qui sont une priorité commune entre l'Indonésie et la France. Le président Prabowo apprécie également les relations de coopération entre l'Indonésie et la France qui sont considérées comme s'étant améliorées. Le 21 novembre, le président Prabowo a rencontré le roi Charles III au palais de Buckingham. L'arrivée du président Prabowo répondait à l'invitation du roi Charles III. La rencontre entre le président Prabowo et le roi Charles III s'est tenue à huis clos. Le même jour, le président Prabowo a également rencontré le premier ministre britannique Keir Starmer à Downing Street, Londres. La réunion entre les deux a abouti à une déclaration commune sur le nouveau partenariat stratégique entre l'Indonésie et le Royaume-Uni. Les deux gouvernements ont convenu d'établir une coopération accrue dans le secteur de la défense, dont l'un est lié à l'augmentation de la cybersécurité. Les gouvernements indonésiens et britanniques ont également exprimé leur engagement à renforcer la coopération pour créer des chaînes d'approvisionnement solides et diversifiées, y compris dans le secteur des minéraux essentiels et de la sécurité alimentaire. Le président Prabowo et le premier ministre Keir Starmer ont également convenu qu'un cessez-le-feu à Gaza devait être mis en œuvre immédiatement par Israël dans le cadre de la résolution des conflits dans la région du Moyen-Orient. Pendant ce temps, la rencontre avec 19 dirigeants d'entreprises britanniques en table ronde des PDG à Leicester House, Londres, le président Prabowo a réussi à obtenir un engagement d'investissement de 8,5 milliards de dollars américains, soit environ 153,3 billions de roupies. Selon le président, cette réalisation montre l'optimisme des acteurs économiques britanniques envers l'économie indonésienne. Le Le 23 novembre, le président Prabowo Subianto a tenu une réunion avec le président des Émirats Arabes Unis, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à Qasr Al Watan, Abu Dhabi. Dans son discours, le président Mohammed bin Zayed Al Nahyan a exprimé son appréciation pour la visite du président Prabowo et de sa délégation aux Émirats Arabes Unis. Il a souligné l'importance des relations bilatérales qui se sont développées rapidement ces dernières années, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la coopération au développement. Le président Mohammed bin Zayed Al Nahyan a également souligné plusieurs réalisations concrètes de la coopération entre les deux pays, y compris la croissance du commerce non pétrolier et du gaz, qui a atteint 12% l'année dernière, pour une valeur d'environ 4,6 milliards de dollars américains. Il était optimiste que l'objectif commercial de 10 milliards de dollars pourra être atteint grâce à la mise en œuvre d'un accord de coopération économique globale et à l'utilisation de la monnaie locale dans les transactions bilatérales. Pendant ce temps, le président Prabowo, dans son discours, a souligné l'engagement de l'Indonésie à poursuivre ses bonnes relations sous sa direction. Le président Prabowo a également apprécié le soutien des Émirats Arabes Unis à la création du Fonds indonésien de richesse de l'État de l'Indonésie Investment Authority, ou abrégé en INA, et a exprimé son désir d'élargir le rôle de l'INA dans le soutien au développement national. Dans le secteur humanitaire, le président Prabowo a exprimé sa gratitude pour l'initiative des Émirats Arabes Unis d'impliquer l'Indonésie dans la mission humanitaire à Gaza. Le 28 novembre, le président Prabowo Subianto a reçu le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE, Matthias Korman, au Palais Merdeka, Jakarta. Cette réunion a discuté du développement économique de l'Indonésie et du processus d'adhésion de l'Indonésie à l'OCDE. Dans sa déclaration, après avoir accompagné le président, ministre coordinateur des affaires économiques Airlangga Hartarto a transmis que l'OCDE a également fourni un certain nombre de contributions stratégiques, y compris des recommandations liées à l'augmentation de la productivité dans divers secteurs. Plusieurs secteurs prioritaires qui ont été au centre des discussions comprenaient la numérisation, sécurité alimentaire, résilience d'énergie et d'autres programmes phares du gouvernement. Le 3 décembre, le président Prabowo Subianto a reçu une cinquantaine d'hommes d'affaires américains membres du Conseil d'affaires américano-ASEAN au Palais d'État, Jakarta. Le président Prabowo, accompagné du ministre des Affaires étrangères Sugiono, ministre de coordination des affaires économiques Airlangga Hartarto, ministre de l'Investissement et de l'Aval, le chef du Conseil de coordination des investissements Rosan Ruslani, l'ambassadrice américaine en Indonésie, Kamala Shirin Lahdir, est présidente du conseil consultatif de la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie, Hashim Joyo Hadikusumo. Rosan Ruslani a déclaré que les hommes d'affaires américains souhaitent investir davantage en Indonésie parce que la stabilité et la paix étaient l'une des principales forces de l'Indonésie. Selon Rosan, les hommes d'affaires croient également que le nouveau leadership du président Prabowo apportera plus de confort. Cela se voit lors de la visite à l'étranger du président en Amérique et rencontre bilatérale avec le président américain Joe Biden. Président et PDG du Conseil d'affaires américano-ASEAN, Ted Osius, a déclaré que 50 hommes d'affaires américains ont exprimé leur engagement à devenir partenaire dans la réalisation du programme Hasta Cita du gouvernement du président Prabowo Subianto et du vice-président Gibran Rakabuming Raka. Le 5 décembre, le président Prabowo a reçu la visite d'hommes d'affaires japonais membres de l'association Japon-Indonésie au Palais d'État de Jakarta pour discuter des engagements concernant les investissements et les questions éducatives sur lesquelles ces entrepreneurs sont prêts à travailler en Indonésie. Le président Prabowo a souligné que l'Indonésie voulait être amicale avec tout le pays sans prendre parti. Le chef de l'État était optimiste avec les ressources et tout le potentiel dont dispose l'Indonésie, le gouvernement atteindrait les objectifs fixés. Selon le président Prabowo, le gouvernement devait penser intelligemment et travailler dur pour obtenir les résultats souhaités pour le bien-être de la population. Le président apprécie également la participation du gouvernement japonais et du secteur privé au soutien du développement de l'Indonésie par le biais d'investissements. Le 11 décembre, le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a prononcé la déclaration de l'Indonésie lors de la 10e session d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans son discours, Arman Atanasir a souligné le rôle important de la communauté internationale pour continuer à faire pression sur Israël pour qu'il respecte le cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui mettrait fin à l'effusion de sang du peuple palestinien et empêcherait une plus grande destruction de Gaza. Car diverses résolutions de l'ONU appellent à un cessez-le-feu immédiat et à la protection des civils à Gaza n'ont pas encore été mises en œuvre par Israël. Il a déclaré qu'Israël avait mis Gaza dans une situation très préoccupante. C'est pourquoi l'Indonésie a appelé à ce que deux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies concernant les demandes de cessez-le-feu à Gaza et le soutien à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens ou UNRWA soit mise en œuvre après avoir été ratifiée à la séance du 11 décembre. Le 12 décembre, le président Prabowo a inauguré le tunnel Silaturahim à Jakarta qui relie la mosquée Istiqlal à l'église cathédrale. Le président Prabowo, dans son discours, a admis qu'il était très heureux d'assister à cette inauguration car ce tunnel était considéré comme un symbole d'interharmonie religieuse. Selon le président, la nation indonésienne a une caractéristique tout à fait unique et fière, à savoir rester harmonieuse au milieu de toutes les différences. Une nation qui a différentes religions, différentes tribus, différents groupes ethniques, différentes races, différentes langues régionales, différentes coutumes, mais peut être unis, peut s'entendre en harmonie parce qu'ils ont les mêmes idéaux, à savoir réaliser un avenir qui puisse apporter le bonheur à tous les Indonésiens.
Meraih suatu masa depan yang bisa memberi kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Le président Prabowo a ajouté que les différences ne devraient pas être un diviseur et une source de désunion pour la nation indonésienne, mais plutôt constituer une richesse et fournir de l'énergie à l'Indonésie. Le tunnel Silaturahim Istiqlal Cathédrale a une longueur de 28,3 mètres de haut et 4,1 mètres de large. Le tunnel a été conçu pour faciliter les visiteurs de la mosquée de l'Istiqlal et de l'église cathédrale. Le 18 décembre, le président indonésien Prabowo Subianto a tenu une réunion avec le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah El-Sisi. Dans une déclaration conjointe avec le président Abdel Fattah el-Sisi devant les délégations indonésiennes et égyptiennes au palais président Al-Ittihadiyah, le Caire, le président Prabowo a déclaré que l'Égypte occupait une place particulière dans le cœur du peuple indonésien. Le président a déclaré que cette visite d'État était un honneur pour lui parce que c'était la première fois au cours de 10 dernières années.
Ini adalah suatu kehormatan bagi saya.
C'est un honneur pour moi d'effectuer la première visite d'État d'un président de la République d'Indonésie au cours des 10 dernières années. L'Égypte, pour le peuple indonésien, occupe une place particulière dans nos cœurs parce que l'Égypte a été le premier pays à reconnaître l'indépendance du peuple indonésien lorsque nous avons mené notre guerre d'indépendance contre les colonialistes.
Sewaktu kami melaksanakan perang kemerdekaan melawan penjajah.
Le président Prabowo a considéré que l'Égypte a un rôle important sur les marchés mondiaux. Par conséquent, les relations bilatérales entre les deux pays doivent être renforcées. Le président Prabowo a également apprécié le gouvernement égyptien pour avoir servi de plaque tournante pour l'envoi de l'aide humanitaire de l'Indonésie à la population de Gaza. Le président Prabowo a déclaré que lors d'une réunion face à face avec le président el-Sisi, les deux pays étaient convenus de continuer à lutter pour la paix. Les deux dirigeants étaient convenus de faire pression en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la région du Moyen-Orient pour le bien des droits humanitaires. En plus de soutenir l'indépendance absolue de la Palestine, le président a déclaré que l'Indonésie et l'Égypte étaient d'accord pour promouvoir une solution à deux États. Outre sa rencontre avec le président égyptien, le président Prabowo a également rencontré des centaines d'étudiants indonésiens qui a étudié à l'université Al-Azhar au Caire. Devant des centaines d'étudiants indonésiens, le président Prabowo a exprimé sa fierté et a conseillé aux étudiants d'étudier avec diligence. À la même date, le président Prabowo a tenu une réunion bilatérale avec le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif au Caire avant le sommet du D8. Le président Prabowo a déclaré au premier ministre du Pakistan que les bonnes relations entre l'Indonésie et le Pakistan continuent d'exister historiquement. Le 19 décembre, le président Prabowo Subianto a assisté au 11e sommet du D8, au groupe de 8 pays en développement dans la nouvelle capitale de l'Égypte, le Caire. Dans son discours, le président Prabowo a appelé le D8 à jouer un rôle qui soit plus qu'un bloc économique pour parvenir à la prospérité de ces pays membres dans divers aspects importants de la vie. Prabowo a déclaré que le D8 était désormais devenu un mouvement représentatif pour les pays du Sud visant à créer l'égalité afin que la gouvernance qui devait être prise en compte ne soit pas seulement liée au secteur économique mais touchait également d'autres secteurs. Le président Prabowo a souligné que la représentation des pays du Sud pourra être réalisée par T8. L'unité devait être la base de la coopération entre les 8 pays membres. Le président a souligné, sans unité et sans surmonter les différences, le groupe D8 ne pouvait pas être fort face à la situation géopolitique qui se produit actuellement. Le président Prabowo a également invité les membres de 8 pays en développement qui sont membres du D8 pour encourager la croissance économique afin de soutenir et de fournir une assistance à la Palestine. Le président a déclaré que les efforts qui devaient être déployés pour encourager l'économie pouvaient être réalisés via le pouvoir de l'industrie et de la technologie. Lors de la séance consacrée à la Palestine et au Liban, le président a souligné que le D8 ne doit pas être divisé et doit maintenir l'unité pour pouvoir défendre l'indépendance de la Palestine et du Liban. Le chef de l'État a souligné que tous les pays musulmans peuvent comprendre qu'en étant divisés, en votant pour soutenir l'indépendance de la Palestine et la résolution du conflit au Liban ne sera jamais entendue par le monde. Les auditeurs de Voice of Indonesia, Voilà le kaleidoscope 2024.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je vais parler d'une chanson de Baila. Baila, l'un des groupes qui viennent de démarrer, a réussi à réaliser de nouveaux exploits grâce à la chanson Asa Asmara. Cette chanson est sortie le 2 octobre 2024 et le 20 novembre, elle avait été écoutée plus d'un million de fois sur la plateforme de streaming Spotify. Asa Asmara est devenue connue pour ses paroles significatives et sa mélodie touchante. Ce succès a été largement promu sur les réseaux sociaux de Baila, qui retrace le parcours de cette chanson depuis son lancement jusqu'à ses réalisations phénoménales. Cette chanson porte sur le thème principal d'avoir le courage d'exprimer ses sentiments. À travers ses paroles, cette chanson invite les auditeurs à ne pas avoir peur d'exprimer leur amour, même s'il existe une possibilité de rejet. Ce message est pertinent pour ceux qui se sentent souvent dubitatifs ou anxieux lorsqu'ils souhaitent transmettre leurs sentiments aux personnes qui leur sont chères. Bon, chers auditeurs, voici Baila, dont le titre est Asa Asmara. Bonne écoute!